Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts Métamorphose, ma santé au naturel. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans cette série, je suis accompagnée du docteur Jean-Christophe Charrier, médecin généraliste et auteur, formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Je vous propose de découvrir en pratique des solutions phyto et naturelles pour notre santé au quotidien. C'est parti !
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
Alors c'est parti et aujourd'hui nous allons parler des solutions naturelles contre la prise de poids au rythme des saisons. Je suis ravie d'accueillir dans ce podcast de cette série le docteur Jean-Christophe Charrier. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour à tous, bonjour Anne.
Bonjour, bonjour à tous aussi. Alors, est-ce qu'il y a une saisonnalité de la prise de poids ? Dit comme ça, ça fait un peu bizarre.
C'est surprenant, hein ?
Oui.
Ben oui, parce que vous vivez dans votre maison, puis vous avez votre chauffage, donc l'hiver, vous ne vous rendez pas compte qu'il fait froid. Et puis l'été, vous vivez aussi dans votre maison, et puis vous avez mis la clim, donc vous ne vous rendez pas compte qu'il fait chaud. En fait, il y a une réelle... Si vous vivez en phase avec le monde extérieur et vous oubliez vos vêtements et vos maisons, vous comprenez très vite que lorsque les jours diminuent, que le froid s'installe, votre corps il a vraiment intérêt à se protéger du froid. Et la seule façon qu'il a pour se protéger du froid, c'est de faire du gras. Regardez les animaux comme l'éléphant de mer qui vivent dans l'Antarctique, c'est qu'une poche de gras. Hein. C'est voilà, ils ont besoin de ça, autrement ils meurent de froid. Par contre. Quand vous êtes dans des zones qui sont très arides, tout ça, vous n'avez pas forcément besoin de graisse pour vous protéger du froid. Justement, il y a d'autres systèmes qu'il vous faut mettre en place pour affronter la chaleur. Donc, en fait, votre organisme, il est en phase avec le monde extérieur, même si vous vivez dans votre maison, parce que, en fait, dans l'histoire de l'humanité, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a un confort de vie tel que nous le vivons actuellement. Donc, c'est inscrit dans nos gènes. Et notre cerveau, avec des cellules qui sont dans le fond de la rétine, à la conscience si on est en hiver, si on est en été, si on va vers des jours qui raccourcissent ou des jours qui se rallongent, et il va impacter certaines dynamiques dans notre corps qui va avoir une influence sur notre poids.
Alors, quels sont les facteurs les plus courants de la prise de poids ? C'est vrai qu'on en connaît un certain nombre, mais j'aimerais bien qu'on fasse peut-être un résumé un peu des plus fréquents.
Donc,
là, on a parlé de la saisonnalité.
L'entrée dans l'hiver, déjà, à partir de l'automne, l'organisme va commencer à charger les graisses. Et puis déjà, inconsciemment, vous allez commencer à manger différemment. Donc, manger des aliments plus gras, tout ça. Il y a d'autres facteurs qui sont... mais là, on va sortir de la saisonnalité. Mais il y a les facteurs simplement endocriniens et de la vie de chacun ou de chacune. Pendant une grossesse, par exemple, on va prendre du gras. Plus qu'en temps normal, et parce que cette grossesse, normalement, elle doit s'accompagner d'un allaitement par la suite. Et un allaitement, ça dure pas 3 mois ou 6 mois comme on le vit actuellement. Un allaitement physiologique, ça dure au moins 2 ans ou 3 ans. Oui. Donc, notre organisme doit assumer un stock pour qu'on puisse assumer un allaitement après la grossesse.
Intéressant.
Voilà, il faut savoir que, par exemple, les sculptures de Vénus du Paléolithique sont des femmes extrêmement girondes. Pourquoi ? Parce que cette forme assez chargée de graisse était quand même un signe de fertilité, parce que dans une époque où on n'avait pas de frigo et aucune façon de conserver nos aliments, c'est les femmes qui avaient le plus de gras qui avaient la possibilité de porter une grossesse jusqu'à terme. Parce que quand vous êtes nomade et qu'il y a des périodes où vous n'avez pas à manger, et bien en général, votre grossesse se termine en fausse couche. Donc ces graisses-là, elles ont un rôle aussi important, et elles sont situées à un endroit aussi très particulier dans l'organisme. Donc, on appelle ça des graisses gynoïdes, hein, donc les graisses de la femme qui se répartissent surtout sous l'ombilique et au niveau des cuisses.
Par exemple, vous parlez toujours de la femme enceinte ou de la femme en général ?
Là, je parle de la femme en général.
D'accord.
Parce que ces graisses sont sous une dépendance hormonale importante parce qu'elles-mêmes, elles produisent des hormones de type féminine. Donc, à la fois, elles sont des graisses de stockage, mais elles sont aussi des graisses organes qui vont créer des hormones. Et celles-là, quand elles sont en place, on a beaucoup de mal à les enlever parce qu'elles ont une fonctionnalité métabolique dans notre organisme et l'organisme ne va pas s'amputer d'un organe.
Oui.
Donc, il faut bien distinguer différentes graisses. Il y a des graisses qui sont vraiment des graisses de stockage pour passer un bon hiver, que l'organisme va éliminer un peu de lui-même parce qu'à partir du printemps, il va mettre une dynamique de détoxination de l'organisme et d'épuration pour virer ces graisses-là. Il y a des graisses qui sont des graisses de stockage par excès d'alimentation. Il y a des graisses qui sont des graisses de stockage par des problèmes de fonctionnement métabolique de la gestion de l'insuline et qui nous amènent donc sur ce qu'on appelle le diabète gras. Qui arrive de plus en plus jeune maintenant, hein, parce qu'on a une alimentation qui est catastrophique. Le diabète gras arrivait avant la cinquantaine, il y a une à deux générations. Maintenant, on a des enfants qui sont pas encore pubères, qui sont déjà dans un diabète gras. Donc, il y a un vrai problème.
Et puis, il y a les ménopauses et ménopause aussi.
Voilà. Alors là, pour la ménopause, c'est les mêmes graisses dont on parlait tout à l'heure, en fait, qui vont prendre qui vont faire la supplémentation du fonctionnement des ovaires. Donc, suivant chacune des femmes, il y en a qui vont en prendre beaucoup ou presque pas. Mais il y a une petite modification du corps à ce moment-là. Les hommes à l'andropause, eux, vont plutôt prendre des graisses qui sont plus au-dessus de l'ombilique et qui sont beaucoup plus des graisses d'ordre pancréatique. Donc, qui sont plus liées à ce qu'on appelle le syndrome polymétabolique et qui est lié à un problème de fonctionnement global avec des excès de surcharge. Vous avez aussi des problèmes avec la thyroïde qui peut vous faire prendre du poids même si vous n'avez pas une alimentation qui est excessive. Donc, tous les défauts de fonctionnement thyroïdien peuvent entraîner cette prise de poids. Donc, c'est pas toujours facile de perdre du poids parce que si vous avez pris du poids parce que vous mangez trop, ben, c'est simple, hein, il suffit de manger moins. Mais souvent, il y a d'autres raisons qui vous ont fait prendre du poids, parce que votre cousine, votre voisine, votre sœur, votre frère qui mange comme vous, vos parents qui mangent comme vous, prennent pas forcément le même poids que vous sur le même repas. Donc, il faut bien comprendre qu'on a aussi notre propre fonctionnalité, on a nos dysfonctionnements et certaines compensations que va mettre en place notre organisme pour compenser nos dysfonctionnements.
Ça, c'est bien de faire des examens un peu plus approfondis pour comprendre d'où vient, effectivement, on entend souvent, ben moi, je mange à peine un petit écart et hop, j'ai l'impression de prendre 3 kilos. En tout cas, moi, dans mon entourage, dans les copines, je l'ai entendu plein de fois, effectivement, ça.
Voilà, il y a aussi, on va juste faire un week-end un peu en famille et paf, on a pris 2 kilos le lundi matin, donc on est un peu déprimé de son week-end. Alors ça, ces 2 kilos-là, ils sont très faciles à faire partir. Hein. C'est-à-dire que si vous avez pris vos 2 kilos dans le week-end, vous allez les perdre dans les 2 jours qui suivent. Parce qu'en général, c'est parce que vous avez mangé plus salé que d'habitude et que vous avez retenu plus d'eau dans votre corps. Donc ça, c'est pas du gras. Et par contre, ces 2 kilos que vous avez pris dans le week-end, si vous les évacuez pas dans la semaine qui suit, vous allez les garder. Et eux, ils vont commencer à s'organiser et faire du vrai gras. Donc c'est bien ça qu'il faut comprendre. Si on a une tendance à prendre du poids, il faut surveiller ces petits excès. Mais effectivement, ça mérite toujours un bilan médical pour comprendre pourquoi on fait du poids, pourquoi notre organisme fait du stockage. Est-ce qu'il a besoin de stocker du gras et faire de ce qu'on appelle de l'hyperplasie, c'est-à-dire remplir les cellules de graisse, ou est-ce que il a plutôt un besoin de multiplier de la masse cellulaire, et donc là, on n'est pas sur les mêmes poids.
D'accord. Quel type d'analyse il faut faire, assez classique?
Oui, globalement, de toute manière, faut s'assurer que la thyroïde fonctionne bien, faut s'assurer que le pancréas fonctionne bien. Ça me paraît être des choses principales. Faut s'assurer que le foie fonctionne bien aussi. Savoir s'il fabrique une bonne qualité de cholestérol ou pas. Voir si vous avez des triglycérides ou pas. Tout ça, c'est important. Mais vous avez des personnes qui ont un surpoids majeur et qui ont un bilan biologique parfait. Ça, c'est toujours surprenant.
Je me souviens d'une infirmière qui m'avait fait une prise de sang un jour et qui me parlait du poids, de son poids, et qui me disait « Oh là là, faut faire attention parce qu'à partir d'un certain âge, on prend un petit kilo par an. » C'est rien, un kilo par an, comme ça, vu comme ça. Sauf que sur 10 ans, ça fait 10 kilos. Et 10 kilos, elle m'avait dit « Moi, c'est ce que j'ai pris, c'est beaucoup. »
Ah, et ça, ce dont elle vous parlait, c'était surtout la problématique de la ménopause. La ménopause, elle ne dure qu'une journée. On pourra en parler un jour, hein, mais... La ménopause, c'est le jour où les règles s'arrêtent de façon définitive. Donc, ça, c'est par définition. Donc, en fait, quand nous, on parle de ménopause, on parle de préménopause et de post-ménopause, donc tout ce qui est périménopause. Oui. Et dans cette phase-là, pour faire très, très simple et très rapide, vous avez vos ovaires qui vont fabriquer de moins en moins d'œstrogènes et vous avez vos graisses qui vont fabriquer un certain type d'œstrogènes pour compenser le manque des ovaires. Et donc, si vos graisses fonctionnent pas bien, ou si la demande en œstrogène est trop forte, ben l'organisme va avoir tendance à augmenter le volume pour augmenter le rendement. C'est une stratégie qu'a l'organisme dans toutes les insuffisances fonctionnelles de fabrication. L'organisme augmente le volume dans un premier temps pour tenter à augmenter le rendement. C'est pour ça que quand vous avez une insuffisance hépatique, vous faites un gros foie. Quand vous avez une insuffisance cardiaque, vous faites un gros cœur. Et quand vous avez une insuffisance en œstrogène, eh ben, vous faites des grosses cuisses.
D'accord. Intéressant. Vous dites que c'est important de ne pas prendre justement plus d'un kilo dans l'hiver, hein, vous dites, parce qu'après on ne le perd plus. Qu'est-ce qu'il faut privilégier au quotidien pour chaque repas? Plutôt favoriser le déjeuner, manger plutôt léger le soir? Alors je sais qu'on entend énormément de choses, hein, on parle beaucoup de régime cétogène, signalet, FODMAP, sans gluten, etc. On s'y perd un petit peu. Quelle serait finalement un peu l'assiette idéale?
Je pense qu'il n'y a pas de situation idéale. Les consignes doivent dépendre vraiment de la culture individuelle de chaque personne et puis du pays dans lequel on est et puis du rythme de vie que l'on a. Une des difficultés qu'on a en Europe, c'est qu'on a le temps du soir qui est souvent le temps de retrouvailles de la famille et c'est souvent là où on mange ensemble. Or, c'est un temps où on va prendre un excès de charge en énergie, on va dire, alors que la seule activité qu'on va avoir après, c'est d'aller se coucher et de dormir. Donc, on va pas brûler cette énergie. Et du coup, le matin, on se réveille, on n'a pas faim, donc on va pas déjeuner. Donc, du coup, on va se jeter sur du grignotage dans la matinée parce qu'on va avoir des petits manques énergétiques. On va manger trop vite le midi parce qu'on est trop pressé avec notre boulot, avec l'école où il faut aller chercher les enfants, enfin bref, tout ça. Avec nos activités et du coup on va arriver affamé au repas, enfin à la maison quand on aura fini notre journée et comme on n'aurait pas assez suivi manger à midi, et ben on va faire un petit grignotage en arrivant à la maison. Il suffit qu'on ait des enfants bas âge, on va faire le goûter avec eux. Alors nous on a fini de grandir, hein. Et voilà, et du coup on arrive le soir, tout le monde se met à table et on se remet à manger. Donc on est vraiment dans notre société actuellement, désorganisée complètement par rapport à notre alimentation. L'invention du petit déjeuner a été une catastrophe. Le petit déjeuner est arrivé dans notre culture au 16e, 17e siècle, hein, en ayant découvert le cacao et le café. Et donc, parce qu'à la cour, il était de bon ton de commencer la journée par cette boisson tonifiante, hein, qui était le chocolat ou le café. On a le petit déjeuner, c'est déjeuner, ça veut dire rompre le jeûne. Hein. Donc, le déjeuner, c'est le premier repas de la journée, normalement. Donc, on a fait un petit déjeuner sucré qui est venu se poser avant. Et progressivement, dans notre culture moderne, on a notre petit déjeuner au réveil et on attend 3 à 4 heures pour faire notre déjeuner. Donc, on n'est plus dans un déjeuner. On est déjà dans le dîner, en fait.
Oui, tout à fait. Voilà. D'ailleurs, en fonction des pays, en Suisse, par exemple, ils appellent le déjeuner le petit déjeuner.
Voilà. Et puis, voilà, c'est beaucoup plus juste parce que avant, on avait le déjeuner, le dîner et le souper. Ouais. Et le souper, c'est la soupe. C'est-à-dire, c'est un repas extrêmement léger. Ouais. On a perdu tout ça avec notre vie moderne. Donc, en fait, il faut oublier les mots qu'on a mis, mais au petit déjeuner, il faut faire un déjeuner, il faut rompre le jeûne. Quand on avait une vie très rurale et qu'on allait travailler dans le froid, le déjeuner c'était pas un bol de chocolat. D'abord, on n'avait pas les moyens de le faire. C'était le déjeuner, c'était du saucisson, du pâté. Voilà, c'était un repas. Oui. Un repas froid, mais souvent parce qu'il fallait que ce soit rapide, on n'avait pas le temps. Mais ça pouvait être aussi des œufs, ça pouvait être n'importe quoi. Mais c'était un repas voilà qui permettait d'aller travailler et d'avoir l'énergie pour de travailler physiquement. Dans notre vie moderne, on n'a pas besoin de toute cette énergie-là. Donc, on a oublié ça, puis on est venu sur ces petits déjeuners très sucrés, qui sont une catastrophe, en fait, parce qu'ils relancent une dynamique d'appétit.
D'insuline, oui.
Voilà, et nous mettent dans une dynamique d'hyper-insulinisme qui va nous amener au grignotage en permanence. Donc, moi, ce que je conseille le plus souvent à mes patients, mais mes conseils peuvent varier en fonction des personnes, mais on va dire, à grande échelle, ce que je conseille, c'est qu'on ait faim le matin en se réveillant. Donc, pour avoir faim le matin en se réveillant, il suffit de pratiquement pas manger le soir. Le soir, ça doit être un repas léger, donc une soupe l'hiver. Ça peut être des haricots verts avec un filet de poisson blanc, ça peut être des choses comme ça. On évite de faire un dessert ou alors on va manger une petite poignée d'amandes, de noisettes ou de choses comme ça. Moi, je trouve que ça, c'est un repas du soir assez frugal. qui permet de passer, d'être facile à digérer et de passer une bonne nuit. Donc le matin, on va se réveiller, on a faim. Et donc à ce moment-là, eh bien, moi, je préconise surtout soit de faire un petit déjeuner, on va dire salé entre guillemets. Hein, c'est pas parce qu'on va, on rajoute pas forcément du sel, mais on va manger des protéines, on va manger une boîte de sardines à l'huile avec du pain et du beurre. Hein, moi, je trouve que c'est très très bien. Il y en a qui font la grimace en nous écoutant, mais je peux vous assurer que vous faites ce petit déjeuner-là, vous n'avez pas faim du tout de la matinée. Et en plus, vous digérez très bien vos sardines, même ceux qui ont du mal à les digérer d'habitude.
Et pour les végétariens ?
Alors pour les végétariens, on va manger plutôt. On peut manger du houmos. On peut voilà, on peut faire aussi si on est végétarien mais qu'on mange des œufs, on peut manger un œuf le matin. Si on est végétalien, c'est un peu plus compliqué, mais on peut faire le matin avec une purée de haricots. Moi, j'ai eu la chance d'aller faire de la formation au Mexique, par exemple. Au Mexique, le matin, au petit déjeuner, on a une purée de haricots, on a une omelette et puis c'est tout. Hein.
Il y a plein de pays qui sont comme ça, effectivement.
Voilà. Oui. Donc en fait, c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi il faut avoir des sucres lents le matin, il faut avoir des protéines le matin, ça nous permet de tenir toute la matinée. Et en plus, on n'a pas cette fatigue qu'on a quand on mange ces aliments-là sur les autres repas.
D'accord.
Et à midi, il vous faut prendre le temps de manger au moins une crudité, un légume, une légumineuse, une céréale, un sucre lent comme une pomme de terre, des choses comme ça. Ça se mange à midi. Il faut manger des patates, il faut manger des lentilles, des petits pois, des pois cassés, des haricots, des fèves, du pois chiche. Il faut vraiment manger du riz, des pâtes. Il faut manger tout ça le midi.
Oui, tout ce qui est glucides et légumineuses.
Voilà. Faut éviter les desserts sucrés. Mm-hmm. Donc, supprimer tous les desserts sucrés. Vous verrez que vous n'aurez pas envie forcément de manger à l'heure du goûter, parce que là, vous avez largement d'énergie qui va vous amener jusqu'au soir.
Même si on a pris des glucides à midi ?
Bien sûr. Si vous avez pris...
Des pâtes, par exemple, si on a pris des pâtes.
Des pâtes, du riz, des choses comme ça, ça va vous tenir jusqu'au soir.
D'accord.
Si vous êtes affamé quand vous arrivez au repas du soir, c'est que vous n'avez pas assez enrichi votre repas du midi de ces aliments-là. Donc, le lendemain, vous rajouterez une cuillère à soupe de riz, vous rajouterez une patate, éventuellement un morceau de pain s'il n'y a rien d'autre. Mais voilà, faut bien trouver son équilibre. Vous ne devez pas être affamé quand vous arrivez au repas du soir.
C'est ça, et surtout pas commencer le grignotage vers 17-18 heures.
Voilà,
on peut parfois le faire.
Voilà, les enfants, ils ont besoin de ce repas-là parce qu'ils sont en croissance. Eux, ils ont besoin d'apporter, d'aller manger le monde pour se constituer et grandir.
Mmh.
Donc, ils ont besoin de ce repas-là pour leur dynamique de croissance. Une fois que vous êtes adulte, vous n'avez plus besoin de ce repas-là. Vous avez largement d'apport énergétique pour la journée. Votre organisme, ce qu'il faut bien comprendre, en permanence, il se détruit pour mieux se reconstruire. Donc, il n'a pratiquement pas besoin de repas quand il a fini sa croissance. Il a juste besoin d'apport d'aliments pour compenser les pertes de ce mécanisme de destruction et de reconstruction. Donc, on n'a pas besoin de manger autant que mangent nos enfants. Et on peut avoir donc un repas en moins, donc supprimer le petit déjeuner. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que quand vous avez fini de grandir en hauteur, eh bien, si vous continuez à manger de la même façon, vous allez continuer à grandir, mais en largeur.
En largeur,
c'est pas le problème.
Si on veut perdre 2-3 kilos facilement et durablement, comment est-ce qu'on peut faire ?
Alors d'abord, on va éviter de faire ça pendant l'hiver. La première stratégie pendant l'hiver, c'est de stabiliser son poids. Et donc, on parlait de la fluctuation de 1 kilo, c'est ça qu'il faut optimiser pour l'hiver. Si vous voulez perdre du poids pendant l'hiver, vous agressez votre... corps et vous créez un stress majeur qui va vous faire reprendre du poids par la suite.
Donc, on garde ça pour l'automne, le printemps et l'été ?
Alors, l'idéal, c'est le printemps.
D'accord.
Parce qu'au printemps, vous avez une dynamique physiologique où le corps va se dégraisser tout seul et si vous accompagnez ce dégraissage, eh bien, ça va aller beaucoup plus vite. Donc là, c'est le moment de faire attention à votre alimentation, diminuer les portions, ne pas se resservir au plat, prendre des assiettes plus petites. Votre cerveau, il préfère avoir une assiette petite remplie à ras-bord qu'une grande assiette où il y a plein de vide dedans. Donc, il vaut mieux avoir une petite assiette et bien se servir, mais pas revenir au plat. Voilà. Prenez le temps de mastiquer, de saliver. Je le dis tout le temps et je trouve que j'insiste jamais assez. Si vous ne mastiquez pas, si vous ne salivez pas, vous allez prendre du poids. C'est une évidence parce que vous allez fatiguer votre organisme. Vous savez qu'il vous faut 2/3 de l'énergie de ce que vous avez mangé pour digérer ce que vous venez de manger.
Mmh.
Hein, donc, plus vous mangez lourd et plus vous consommez de l'énergie pour digérer ce que vous avez mangé. Donc, ça vous fatigue et ça vous met dans un mauvais état qui peut vous amener après à grignoter et tout ça. Donc, mangez de plus en plus léger. Faites une cuisine la moins qui contient le moins de graisse cuite possible et le moins de sucre possible. Je parle de sucre, quand je parle de sucre, c'est de sucre ajouté. Les pommes de terre ne me posent aucun problème, hein, parce que j'ai des patients qui viennent me dire « j'ai supprimé les sucres et je mange plus de patates ». Non, la pomme de terre, c'est pas du sucre, c'est de l'amidon qui va certes se transformer en sucre dans votre corps, mais il faut pas le voir comme du sucre, c'est autre chose. Tous les aliments que vous mangez, que ce soit du gras, de la protéine, c'est des aliments qui vont se transformer à un moment donné ou à un autre en glucose dans votre organisme. Donc moi, quand je dis qu'il faut supprimer le sucre, c'est pas supprimer tous les aliments, c'est supprimer le sucre ajouté, et notre alimentation moderne est beaucoup trop riche en sucre ajouté. Mmh. Alors, faut faire vraiment attention à ça. Et puis, si malgré les efforts de mettre le rythme comme on a fait, comme on a dit, qu'on ait diminué les portions, tout ça, et qu'on n'arrive pas à perdre du poids, à mon avis, ça, c'est la première étape. Il faut d'abord bien informer notre corps des rythmes à avoir. Et bien après, là, on peut mettre en place une monodiète.
Donc, si malgré tout ça, on a quand même du mal à perdre du poids, est-ce que ça peut être une bonne chose d'aller sur les cures de détox, les monodiètes? Et de toute façon, est-ce que c'est bien de le faire, même si on ne cherche pas spécialement à perdre du poids?
Alors, la monodiète, elle est... globalement, elle n'est pas là pour faire perdre du poids, elle est là pour faire une sorte de reset dans l'organisme et de mettre au point le mode de fonctionnement de l'organisme. Donc, quand vous avez mis en place toutes les méthodes qu'il fallait pour perdre du poids et que ça ne marche pas, la monodiète peut être le facteur déclencheur qui va vous permettre de perdre du poids. Mmh. Voilà. Et la meilleure des monodiètes à faire, c'est celle qu'on fera au printemps, parce qu'elle va accompagner la dynamique physiologique de perte de poids du printemps.
Oui, vous parlez aussi de quel type de monodiète, par exemple, au printemps?
Ben, par exemple, pour les femmes, moi, j'aime bien donner ce qu'on appelle la cure d'ananas champignon, qui consiste au mois de mai. En général, on se cale sur la pleine lune du mois de mai, parce que la lune a des phénomènes sur les marées, et donc entre nos cellules en intracellulaire et extracellulaire, on a des phénomènes de marée, c'est aussi important d'utiliser ça, il n'y a rien de magique là-dedans. Donc 2 jours avant la pleine lune, on va faire une alimentation qui va être constituée que de légumes et de poissons grillés ou vapeur, petit déjeuner compris. Et les 4 jours qui vont suivre, on va manger que de l'ananas et des champignons.
Mmh, d'accord.
Cru ou cuit. Et on va terminer par une journée poisson-légumes. En faisant ça, c'est une cure qui est très, très adaptée au monde féminin, parce qu'elle va avoir une action qui va enlever l'inflammation au niveau de la cellulite, par exemple. Et c'est une cure qui va... agir beaucoup sur le mécanisme physiologique de la femme pour qu'elle puisse se dégonfler, on va dire, de toute l'imprégnation hormonale qu'elle peut avoir et qui retient de l'eau. Cette monodiète qui dure 1 semaine, par exemple, va nous aider à perdre du poids dans les 2 mois qui vont suivre.
D'accord, très bien. Ça, c'est une bonne astuce. À l'automne, on peut faire la monodiète de raisin. Combien de temps?
Alors, la monodiète de raisin, c'est, si vous en avez qu'une à faire dans votre vie, c'est celle-là.
Oui.
C'est celle que moi je fais assez régulièrement. Elle est assez dure. Elle est adaptée à quasiment tout le monde. Il suffit juste d'être motivé pour la faire. Si vous n'êtes pas motivé, c'est même pas la peine de la commencer.
On peut la faire sur un temps plus court si on est moins motivé, peut-être.
Eh ben alors, c'est se créer beaucoup de contraintes pour un bénéfice qui, à mon avis, n'est pas très intéressant.
D'accord. Si on la fait. Vous la faites combien de temps, vous, alors?
Alors, on fait la monodiète de raisin. Elle se prépare avec 3 jours, avec une journée céréales, une journée légumes, une journée fruits, et après on part sur 10 jours de raisin. Et ce n'est seulement qu'à partir du 6e jour de raisin que la cure commence à être réellement bénéfique pour l'organisme. Et il faut vraiment aller jusqu'au 10e jour. C'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin.
Il y a des contre-indications?
Pardon?
Il y a des contre-indications?
Les contre-indications, la principale, c'est si vous n'êtes pas motivé.
D'accord.
J'insiste là-dessus. Si vous avez un diabète, il faut que vous soyez accompagné par votre médecin. Si c'est un diabète sans insuline, eh bien cette cure-là peut vous sortir de cette pathologie, au moins pour un certain temps. Mais il faut bien la faire. On évitera de la faire quand on est trop âgé, parce que on est sur une période assez longue sans aucun apport en protéines, et donc on va être en autophagie de nos protéines, hein, et donc à un certain âge où on perd beaucoup les protéines, vaut mieux éviter de la faire. Mm-hmm. On évitera de la faire si on est un enfant, et on évitera de la faire si on est en grossesse,
ouais.
Si on a une grossesse. Mm-hmm. Hein, ça n'a pas de logique. Après les 10 jours de raisin, ce qui est important, c'est pas de reprendre l'alimentation normale tout de suite. Il faut reprendre une journée fruits, il faut reprendre une journée légumes, une journée céréales. Quand on est bien motivé, on poursuit ensuite avec une journée fruits-légumes, une journée fruits-céréales, une journée légumes-céréales, une journée fruits-légumes-céréales. Et après, vous réintégrez une alimentation normale.
D'accord, on fait une remontée alimentaire douce.
Voilà. Et vous verrez que c'est une cure qui va apprendre à votre estomac à avoir beaucoup moins de volume à l'intérieur. Et si vous faites attention à votre alimentation par la suite, vous allez manger beaucoup moins en volume. Mmh. Et ça, c'est intéressant sur le long cours. Si vous faites pas attention, vous allez revenir en un mois, vous allez revenir sur vos mauvaises habitudes. Hein. Donc, il faut vraiment après être en conscience de ce que l'on mange et s'astreindre à garder un certain volume. Vous, en répartissant ensuite l'alimentation, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez aucune raison d'être frustré parce que vous avez le droit de tout manger. Il suffit simplement de le manger au bon moment.
C'est ça. Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment pour tous ces bons conseils. On peut vous retrouver sur Internet et suivre l'actualité de l'Institut d'Endobiogénie pour une médecine intégrative et préventive sur le site iempi.fr. Et bien entendu, retrouvez tous vos livres, Les clés de l'alimentation anti-cancer chez Terre Vivante ou encore Soigner au naturel, Les maux de l'automne et Se soigner au naturel toute l'année. Découvrez en avant-première les thèmes du podcast Métamorphose, ma santé au naturel sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour être informé et suivre les épisodes des séries gratuitement.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.